Alors, vous avez la possibilité, ce n'est pas indiqué, ça il faut l'ajouter, ce sera pour la prochaine édition de la notice, vous avez... Voilà, mais bien sûr, tout à fait, vous avez tout à fait compris, d'ailleurs elle doit être là, peut-être, je ne suis pas sûr, hein. Mais j'ai là toute une série de fiches, voyez, pour Daniel 1.8, j'ai par exemple le terme résolution ou décision. La Bible est pleine de résolutions, il était sur une résolution. Alors il y a une fiche résolution, j'ai mis qu'elle tisse la vie du vrai disciple. J'ai une fiche sainteté, il est question de sainteté ici, de manière claire. Il est question de commencement. Apparemment, on a du mal à le voir, mais il se trouve que le contexte montre que Daniel est au commencement d'une nouvelle étape de sa vie. Comment est-ce qu'il agit à un commencement? Parce que les commencements dans nos vies sont très importants. Vous commencez un nouveau travail, vous démarrez vos vacances, vous habitez dans un nouveau quartier, vous entrez dans une nouvelle église, et vous savez qu'on a des dérapages faciles dans nos vies quand on démarre. Le diable n'aime pas les bons commencements. Alors, ici, nous avons un commencement très difficile dans la vie d'un jeune homme, déraciné, etc. Comment est-ce qu'il a commencé? Donc, vous voyez, l'idée y est, mais bien sûr, vous n'avez rien qui apparaît dans le verset. Il faut tenir compte du contexte, n'est-ce pas? J'ai une fiche, bien sûr, nourriture. J'ai une seconde fiche sainteté, parce qu'il y a toutes sortes de directions dans ce verset quant à la sainteté. Une troisième fiche sainteté. J'ai une fiche Daniel, sa sainteté courageuse dès son jeune âge. J'ai une fiche témoignage, parce qu'il est question du témoignage, là, n'est-ce pas? Comment témoigner en tant que disciple de Jésus-Christ dans le monde? C'était Babylone à l'époque, c'est Babylone encore aujourd'hui. Le métier, hein, donc on l'a vu. Le cœur, on l'a vu. Puis jeune. Un jeune qui est responsable d'un groupe de jeunes, il va pouvoir préparer toute une étude pour son groupe de jeunes, simplement dans la mesure où il découvre que c'est l'histoire d'un jeune. C'est l'histoire d'un GBU, ça. C'est un groupe biblique universitaire, les quatre, à l'université de Babylone. Et c'est un groupe biblique universitaire qui témoigne, qui prie, qui a de l'hostilité. Comment est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il discute tout le temps? Est-ce qu'il prend position ou pas? Comment est-ce qu'il le fait? Il y a tant de choses à voir pour des jeunes. Alors, vous voyez, on aurait pu ajouter obéissance simplement sur Daniel 1.8. Mais au lieu que ça reste dans votre tête et que vous en perdiez la moitié en cours de route, vous avez là toute une matière, voyez. Alors, j'étais en train de dire simplement que vous pouvez, là, bon, c'est une fiche à trous, il vaut mieux l'éviter, mais... Ça, c'est une fiche récapitulative. C'est-à-dire que vous prenez un Bristol, vous voyez, de plus grand format, et, bon, j'avais fait l'évangile de Luc, vous voyez, Luc 1 à 56, j'ai une colonne avec le verset, verset 1, verset 2, etc., et je mets simplement à côté toutes les fiches, les mots-clés de toutes les fiches. Ça vous permet, n'importe quand, de retrouver les fiches que vous avez déjà faites sur tel ou tel verset, sur tel ou tel. Et ça, ça peut être très utile si un jour, dans votre cercle de dames ou dans votre groupe biblique de quartier, vous mettez à faire une étude sur tel livre de la Bible. Si vous l'avez déjà étudié, ben, vous allez voir, tiens, qu'est-ce que j'ai fait comme fiche? Vous avez déjà tout un travail secret et que vous allez pouvoir reprendre pour essayer de construire quelque chose. Donc ça, c'est à noter parce que ça ne figure pas sur votre papier. Avantages et objectifs de cette méthode. Avantages et objectifs. Premièrement, je copie le livre étudié plusieurs fois. Ça c'est fantastique. Quand je pense, l'épître aux Colossiens, c'est une épître que j'ai dû copier 5 ou 6 fois, à peu près, sur grosso modo 3 mois. J'ai dû faire 400 fiches. Quand je suis arrivé au bout de ce temps de copie et de réflexion, j'étais imprégné de l'épître aux Colossiens. Et ça m'a donné plusieurs séries d'études. La première chose que Dieu m'a donnée, c'est de diriger un camp international de formation chrétienne. Et il m'a dit, bon, ben maintenant tu vas mettre Colossiens en pratique. Et donc j'ai donné toute une série d'études à partir de tout ce que j'avais personnellement découvert. Et puis peu à peu, ça a fait des petits, puis maintenant j'ai toute une série, je ne sais pas, d'une quinzaine d'études simplement sur l'épître aux Colossiens. Mais c'est parti de cette imprégnation de cet épître aux Colossiens. Romains, je vous assure, c'est un régal extraordinaire. Je suis en train de copier l'épître aux Romains. Je pense que les 9 premiers chapitres, je les aurai bientôt copiés, 5 ou 6 fois aussi. Oui. Se faire. Ça, vous pouvez, comme vous. Vous savez, l'essentiel, c'est de ne pas passer à côté du processus qui fait du bien. Hein. Je crois que ça, c'est très important. Maintenant, tout le reste, si vous voulez travailler. D'ailleurs, on verra des utilisations en équipe, là, dans notre conclusion, assez rapidement. Mais ça, pour moi, c'est essentiel. Là, j'encourage beaucoup à cause simplement de cette imprégnation. Là, je vais, au mois de juin, donner une série sur Romains, et c'est parce que j'ai redécouvert l'épître aux Romains. C'est une épître que j'aime. Vous savez que certains hommes de Dieu la lisaient 2 fois par semaine pendant toute leur vie. Chrysostome, un des pères de l'Église, la lisait 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. L'épître aux Romains joue un rôle fantastique dans l'histoire de l'Église. Ben, j'ai découvert, entre autres, le message de l'épître aux Romains sur le corps. C'est un message fantastique sur l'utilisation du corps. Dans les 12 premiers chapitres, surtout les 8 premiers chapitres et le chapitre 12, où il y a un ensemble de vérités fantastiques, aussi bien pour l'évangélisation que pour la vie de l'Église. Alors, habituellement, on parle de Romains 12, hein, offrez vos corps. Et on le détache complètement de son contexte. Or, dans Romains 12, il est dit, je vous exhorte donc à offrir vos corps. Donc, ça c'est une conjonction clé. Et le donc est lié à tout l'enseignement de l'apôtre Paul sur le corps, dans une douzaine de passages de Romains 1 à 8, qui sont des passages fantastiques depuis l'utilisation du corps dans la condamnation en dehors de Christ, à la sanctification et à la glorification, c'est-à-dire le moment de la rédemption du corps, en passant par le processus de la sanctification, n'est-ce pas ? Il y a tout un message, et ce n'est que l'aboutissement, voyez ? Alors là, enfin, moi ça m'enthousiasme en tout cas. Non seulement l'imprégnation, mais la mémorisation de son contenu sont nettement facilitées. Il m'est souvent arrivé de refermer ma Bible après avoir étudié un verset de cette manière et de me dire, maintenant Maurice, tu vas reconstituer ton verset. Au lieu de le mémoriser, je dirais, comme on fait du bachotage, vous savez, d'une manière mécanique, j'essayais simplement de le reconstituer à partir des fiches que j'avais faites. Et c'est facile. Si vous avez analysé et fait 5-6 fiches, ensuite vous pouvez reconstituer votre verset de manière intelligente. Voyez ? Donc la mémorisation est facilitée. Deuxièmement, j'associe étroitement l'exercice spirituel à l'effort intellectuel tout au long de mon travail. Il y a cette notion d'équilibre qui est tellement importante quand nous approchons des Écritures. Troisièmement, j'analyse longuement chaque verset pour en tirer le maximum d'enseignements tous azimuts dans toutes les directions. Je suis obligé de toujours faire appel au contexte pour éviter de faire des fiches erronées. Ça, c'est une bonne chose. Quand on sait le nombre de sectes et de déviations issues du refus du contexte. Quatrièmement, je découvre progressivement les thèmes dominants, les courants profonds du livre dans son ensemble. J'entre dans la pensée de l'auteur. Cinquièmement, j'apprends à formuler mes pensées, mes observations de manière concise et condensée. Sixièmement, j'effectue un travail de base qui va considérablement faciliter la préparation de messages, d'études bibliques dans le cadre du ministère que Dieu m'a confié. Septièmement, j'ai constamment un canevas disponible pour avancer dans mon étude personnelle. Parce que ça, c'est un des gros problèmes que nous avons en général. Vous vous dites, je veux étudier un auteur, un personnage de la Bible, un thème ou un livre de la Bible. Vous avez un mal fou à entrer dans le texte. Souvent, on se dit, mais par quel bout je vais prendre, hein? Parce qu'on n'a pas de ligne directrice. Vous finissez par trouver une solution, une brèche. Vous y engouffrez. Au bout d'une heure, si vous faites ça une fois par semaine, suivant votre travail, etc., vous devez vous arrêter. Vous allez reprendre la semaine d'après. Mais vous allez avoir un mal fou à vous réintroduire dans votre sujet. Ça va déjà vous prendre un certain temps, n'est-ce pas ? Alors, vous perdez chaque fois un temps énorme. Comme vous avez une méthode d'approche de ce genre, ben, je sais que je suis dans Romains 9 à tel verset. Je vais rentrer mardi soir de Paris, mercredi matin, je peux ouvrir à Romains 9, je vois exactement quelles sont les dernières fiches que j'ai faites, et en l'espace de 5 minutes, je suis dans mon texte. Parce que j'ai, voyez, j'ai une ligne directrice, j'ai un canevas, j'ai un chemin qui est déjà préparé. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important pour ne pas nous décourager dans cette étude approfondie des Écritures. Bon, alors là, ce sont donc sept avantages et objectifs. Peut-être on peut en découvrir d'autres. Extension de son utilisation, on termine par là. Pour enrichir mon fichier, je vais ajouter aux fiches d'études systématiques de la Bible de nombreuses autres fiches extra-bibliques très utiles pour l'étude de sujets d'actualité. Quelles sont les possibilités? Des fiches anecdotiques, statistiques, citations, illustrations tirées de la nature, de l'histoire, des événements présents, mise sur fiche des passages frappants d'un livre ou d'une revue. Voyez, alors vous avez des possibilités. Vous voyez, j'ai ici, bien, chaque fois que je pars pour une nouvelle série, je vais dans mon fichier et en fonction du thème que je vais aborder, je sors de mon fichier tout un ensemble, vous voyez, vous en avez ici, une quantité de fiches qui sont péribibliques, parabibliques, illustrations, etc. Je peux prendre du temps dans le train, par exemple, pour relire ces choses, pour m'en imprégner. Quand je suis parti pour traiter Babylone, j'ai pris toute une quantité de fiches sur la civilisation babylonienne, j'ai passé du temps à les relire, etc. Vous avez tout un matériau qui est là à disposition. Je vous montrerai dans 2-3 minutes comment mettre à la disposition des anciens de l'Église, ça c'est important, qui ont un ministère d'enseignement, un matériel. Parce que là, l'Église peut aider ceux qui ont un ministère et les encourager d'une certaine manière. Alors le processus est le même, c'est ce qui est intéressant. Vous recherchez un titre, vous remarquez que mes fiches parabibliques ou péribibliques, voyez, ont le même principe, un titre, éventuellement dans certains cas un sous-titre ou une petite annotation, et donc un sous-titre, voyez, avec un trait. Rédaction du texte ou collage de la coupure, indication des références, date, auteur, titre de l'ouvrage, page, circonstances de l'événement raconté. Format des fiches, alors là vous remarquez qu'il y a une petite différence. Hein? Alors que pour l'élaboration des fiches bibliques, je n'utilise que la petite fiche, pour ce qui est d'ordre statistique, anecdotique, etc., j'utilise trois formats. Pourquoi? Parce que il faut tenir compte du volume des textes que je découvre, ou des histoires, n'est-ce pas? Alors, pour les petites histoires, vous voyez, voilà, bon, là, c'est un recto versé. Sauf, vous avez ici, par exemple, une petite citation, toute petite, elle tient sur une petite fiche, bon, je la mets sur une petite fiche. Quand ça ne tient plus sur une petite fiche, ça tiendra peut-être sur une fiche de format classique, hein, qu'on trouve un petit peu partout. Si ça ne tient pas là-dessus, ça tiendra peut-être sur un recto verso de ces grandes fiches qu'on trouve aussi. Et puis dans certains cas, bon, ça c'est la déclaration de Chicago sur l'inspiration des Écritures, vous voyez, je la mets sur deux fiches, avec un A et un B pour savoir que c'est le même texte, on peut aller même plus loin, vous voyez. Donc il y a là toutes sortes de possibilités. Donc je vous indique les trois formats qui permettent déjà le classement d'un matériel important. Pour plus de volume de texte, il faut passer à toutes sortes de possibilités, classeurs suspendus, etc. Avantage, éviter les longues recherches dans une pile de revues qui dorment les trois quarts du temps. Ça, c'est le grand complexe de beaucoup, entre autres, de serviteurs de Dieu et de responsables, qui sont abonnés à un tas de revues, qui s'empilent, et puis le jour, ah oui, mais je sais que pour cette étude, j'ai une illustration fantastique, mais où est-ce que je l'ai lue, hein? Puis alors vous avez 200 journaux sans index, parce qu'il n'y a pas toujours des index, n'est-ce pas, ou des glossaires. Puis alors on fouille, il y a beaucoup de poussière et on se décourage. On perd énormément de temps et c'est très décourageant, hein, que de passer par là. Permettre d'aller rapidement à un ouvrage dans sa bibliothèque, vous savez, ça, quand on a une bibliothèque, là aussi, d'avoir des renvois à une bibliothèque. Pour savoir que dans la bibliothèque, à partir d'une fiche, je vais pouvoir aller à tout un chapitre qui traite de la même question. Vous voyez, alors on a un extrait, et on peut mettre en dessous, tenir compte du chapitre, n'est-ce pas, lire chapitre avec tel titre, telle page. Et ça revitalise et ça redonne de la valeur à notre bibliothèque. Disposer un matériel facilitant l'actualisation, l'aération, la compréhension et la communication du message dispose notre oreille à une écoute différente des événements et notre œil à une lecture plus attentive pour discerner ce qui pourra entrer dans notre fichier pour enrichir notre étude. Et ça, c'est important. Si vous écoutez une émission de radio, si vous regardez un documentaire, si vous assistez à une conférence et que vous avez un récipient dans lequel déposer un canevas, n'est-ce pas, un moyen d'exploitation, vous allez écouter d'une autre manière. Quand je voyage, je suis continuellement à l'affût de ce qui m'est dit. S'il se passe un événement dans le cadre d'une communauté qui peut m'intéresser, j'ai des petites fiches, voyez, qui sont vierges, et après la réunion du soir, je rentre et je fais une petite fiche où je raconte une histoire en précisant les circonstances. D'une part, je vais éviter de la déformer avec le temps, parce que je pourrais toujours revenir au maître étalon et ne pas raconter n'importe quoi. Si j'écris un livre plus tard, je reviendrai à ma fiche. Et d'autre part, c'est un rappel pour ma mémoire, et je vais ensuite intégrer ça à d'autres séries de réunions, etc. Vous voyez donc l'intérêt, là aussi, dans ce domaine. Comment vais-je classer mes fiches? Nous allons le voir dans l'ordre le plus logique qui soit. Tout d'abord, dans l'ordre alphabétique. Amour viendra avant bonté, bonté viendra avant fidélité, etc. N'est-ce pas? Déjà, là, c'est tout à fait facile. Chaque mot est classé dans l'ordre biblique. Livre, chapitre et verset. Exemple. Toutes les fiches amour sont rangées en partant de la première mention dans la Genèse et en aboutissant à la dernière mention dans l'Apocalypse. Ce sera la récolte totale de l'étude de la Bible tout entière avec cette méthode. Bien entendu, ça ne veut pas dire que vous devez commencer à la Genèse et finir à l'Apocalypse. Mais quand vous rangez dans votre fichier, si vous avez fait l'évangile de Jean et que vous avez 100 fiches amour évangile de Jean, vous rangez de Jean 1 à Jean chapitre 21 dans l'ordre du texte. Le jour où vous allez faire une étude sur Genèse, vous aurez 100, 200, 300 fiches amour. Bien entendu, elles viendront avant l'évangile de Jean. Donc, dans l'ordre logique biblique, n'est-ce pas? Ensuite, les fiches anecdotiques, citations, statistiques précèdent les fiches d'études du texte biblique. Exemple, les fiches qui illustrent l'amour précèdent les fiches portant ce titre et consacrées au texte lui-même. C'est-à-dire que vous aurez toujours en tête toutes vos fiches d'illustration, et ensuite, dans l'ordre biblique, sur un mot, dans l'ordre biblique, vous avez sur le même mot toutes les fiches d'analyse du texte. Ce qu'on peut faire, ce n'est pas indiqué, quand on démarre, on peut le faire, vous choisissez pour vos fiches anecdotiques, pour le petit fichier, pas pour le grand, mais pour le petit fichier, vous choisissez une autre couleur, par exemple. On vend donc des fiches d'autres couleurs. De manière à ce que toutes vos fiches illustrations se détachent par la couleur différente des fiches analytiques. Ça vous permet de les trouver plus facilement. Ensuite, remarque, possibilité ultérieure de rangement différent, toutes les fiches appartenant à une grande rubrique sont classés par ordre alphabétique des divisions ou compartiments de cette rubrique, ceci dans une même boîte. Un exemple, ça va vous aider à comprendre. Vous avez une rubrique générale famille. Un jour, vous voulez étudier la question de la vie de famille, pour un camp familial, une retraite d'église au Châtel, ou je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Alors, vous ouvrez une boîte vide, vous mettez dessus une petite affiche famille. C'est votre thème général. Ensuite, vous allez dans votre fichier, et vous sortez de ce fichier toutes les fiches ayant un titre qui est en rapport avec la vie de famille. Vous aurez peut-être des fiches couple, là où il est question de couple dans les Écritures. Vous aurez peut-être des fiches femme, là où il est question de la femme seule. Vous aurez des fiches mari. Vous aurez des fiches enfant, garçon, fille, mariage, divorce, n'est-ce pas? À cause de votre étude personnelle des Écritures et de vos illustrations. Vous rangez tout cela dans votre boîte, n'est-ce pas, dans l'ordre alphabétique. Et, à partir de là, vous vous désintéressez du reste de votre fichier et vous travaillez uniquement avec tout le matériel que vous avez déjà sur ce thème que vous voulez exploiter à fond. Vous comprenez? Alors là, il y a aussi des possibilités absolument fantastiques. Utilisation du fichier, je termine. préparation d'un message, d'une série d'études bibliques, j'y trouve rapidement certaines définitions dont j'ai besoin, des illustrations, des indications de sources ou à l'épuiser. Les analyses comparées des sous-titres d'une série de fiches ayant le même titre permettent de bâtir un plan de travail, suggèrent des directions à suivre, etc. 2. Dans la rédaction d'un manuscrit en vue d'un message, la mention « petite fiche amour » plus tel sous-titre me renverra à une fiche que j'utiliserai dans le courant de la présentation de l'étude. J'ai ça, je ne sais pas si j'ai mon... Je dois l'avoir ici. Cette fiche ici. Vous voyez, si vous regardez un manuscrit, je vais essayer de vous trouver un exemple. Vous voyez, j'ai là un manuscrit. Et j'ai ici, en haut, une petite indication PF, petite fiche, un titre, le titre de cette petite fiche, Volonté de Dieu, et à côté, une petite indication qui m'indique le détail du contenu. Très court. Ça veut dire, quand je préparais ce voyage ici, qu'à la lecture de ce document, je suis allé dans mon fichier pour sortir la petite fiche correspondante, parce que cette petite fiche, c'est une fenêtre dans l'étude que j'apporte. Vous comprenez l'idée? Alors là aussi, c'est très intéressant parce que vous avez à disposition toute une documentation que vous pouvez emporter avec vous. Et là, ce qui est intéressant, donc les fiches peuvent m'accompagner dans mes déplacements après avoir été sélectionnées au préalable en vue du thème à présenter. Troisièmement, l'église locale et les amis, et c'est là que c'est intéressant, peuvent être associés à la chasse aux illustrations, coupure de journée, idées mises sur fiche. Nous l'avons fait dans notre église. Un jour, quand j'ai commencé à travailler comme ça, j'ai dit à l'église, écoutez, chers amis, je voudrais vous indiquer comment je travaille dans mon bureau, pour que vous sachiez ce que je fais dans mon bureau. Et je leur ai raconté cette méthode. Je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous voulez m'aider? Est-ce que vous ne pourriez pas vous travailler à l'hôpital? Vous êtes infirmière, et vous voyez les tonnes de revues qui sont jetées, des salles d'attente, etc. Est-ce que vous ne pourriez pas vous arranger pour avoir certaines de ces revues et me les passer. Vous êtes abonné au grand quotidien Ouest-France, hein, puisque c'était en Bretagne. Vous voyez des histoires intéressantes, des statistiques, quelque chose qui peut me servir. Découpez-le, vous le glissez dans la boîte aux lettres, vous me le mettez dans la poche à la fin du culte le dimanche, vous me le donnez en passant, et vous enrichissez mon propre ministère pour votre service. Ce qui fait que même quand j'avais quitté la Bretagne, on m'envoyait encore de la documentation de cette manière. Et les membres de l'Église se sont concernés par le ministère, vous comprenez? Donc même si on ne peut pas utiliser cette formule personnellement, on peut aider quelqu'un qui l'utilise. Et c'est un beau service à rendre autour de nous. Des travaux de mise sur fiche d'un passage biblique par plusieurs participants d'un groupe d'études bibliques peuvent donner lieu à une mise en commun enrichissante.
Oui.
Absolument, mais bien sûr, c'est biblique la participation, pas n'importe comment, pas n'importe comment. Il y a une caricature de la participation qui nous permet de faire du nombrilisme et de tourner en rond. Il faut faire attention. Mais sinon, oui. En tout cas, là, un groupe d'anciens qui veut continuer à se former, hein, on décide dans le groupe d'anciens de se réunir tous les 15 jours, pas seulement pour discuter des affaires de l'Église, mais pour de temps en temps étudier plus profondément. On choisit un texte. Et on décide, bon, sur ce texte, dans les 15 jours qui viennent, chacun fait les fiches sur ce qu'il découvre de ce texte, lui, sans discuter avec les autres. Et on se retrouve dans 15 jours, autour d'une table, chacun avec ses fiches sur le texte, et on partage. Chacun va dire les fiches qu'il a découvertes. Il va lire ces fiches. On va voir déjà ce que tout le monde a trouvé en commun. On va voir ce que les uns ont trouvé que les autres n'ont pas trouvé. Et puis on va peut-être découvrir des fiches erronées. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se rectifier. Parce qu'un tel va dire, oui, mais tu sais, ta fiche là, est-ce que tu es sûr que ça colle bien avec le contexte? On va peut-être voir des fiches contradictoires. Donc il y aura des violons à accorder. Mais vous voyez, un petit peu toute la pédagogie où chacun aura eu l'occasion de se préparer comme il faut, et où quelqu'un va peut-être faire à la fin une synthèse. Vous voyez l'idée d'une forme d'approche personnelle des Écritures qui peut être très utile. Je crois qu'on doit s'arrêter si on veut revenir ce soir. Il y a une note, n'est-ce pas? Mais enfin,
J'en ai parlé d'ailleurs, hein, avec la question de fiche-mère, on peut l'ajouter. Certaines illustrations peuvent donner lieu à plusieurs applications nécessitant une fiche avec son titre spécifique pour chaque application. Il n'est pas nécessaire de reproduire sur chaque fiche le texte de l'illustration, statistique, citation. Une fiche mère portera sous un mot-clé de texte copié ou collé. Des fiches filles, titrées en fonction des autres applications de ce même texte, seront verront à la fiche mère. Je vous donne un exemple et vous comprenez, je m'arrête là. Il y a un certain nombre d'années, la République de San Marin a frappé une nouvelle pièce de monnaie. Et elle a frappé toute une série de pièces de monnaie en donnant les valeurs les plus fortes aux conceptions de l'amour qui étaient les plus élevées, si vous voulez, par ordre par ordre décroissant, n'est-ce pas ? Donc la pièce de plus haute valeur correspondait à l'amour dans un domaine le plus important. Et puis ça descendait ainsi. Alors il y avait l'amour de la liberté qui était en tête, comme en général il était en tête dans tous les sondages. Puis à la queue, il y avait l'amour du travail. Bon, alors, c'est un diagramme, hein, c'est une radiographie de mentalité qui est très intéressante. Bon, j'ai donc une fiche mère. Sur cette fiche mère, j'ai collé le texte. Et j'ai mis amour, puisque c'est le thème. Mais j'ai des fiches filles, et je ne vais pas reproduire chaque fois tout le contenu de la fiche mère. Mais sur la première fiche fille, je mets liberté. Pourquoi ? Parce qu'il y a la plus forte notion d'amour dans le domaine de la liberté. Alors j'ai une fiche fille, liberté, et en dessous, renvoie à fiche mère, amour, République de San Marin. Donc quand j'ai cette fiche fille, je sais simplement que je dois aller faire un saut dans mon fichier à la fiche mère pour avoir le texte complet. Et puis alors tous les autres éléments, par exemple l'amour du travail, j'ai une fiche fille, travail, avec un renvoi à la fiche mère, amour, et bien sûr l'indication République de San Marin. Voyez l'idée, pour éviter pour les illustrations de devoir reproduire de manière fastidieuse ou photocopier X fois le même texte. Voilà, je m'arrête, mais vous savez que c'est un record, hein, parce qu'habituellement on fait ça en 2 à 3 heures. Alors, je suis très heureux ce soir.
Voilà. Il faudrait l'âge limite pour commencer cela. Bon.
Mais
aucun âge. Parce qu'on n'a pas besoin d'être.
Non. Une fois de plus, n'est-ce pas ? Chacun doit vivre selon les voies du Seigneur pour lui. Mais c'est important que tu le saches même si tu ne le fais pas. Parce que si quelqu'un le fait dans l'église, tu peux prier pour lui. Et c'est important d'encourager, vous savez, je reçois du courrier de pas mal de gens qui font cela, qui me demandent conseil, etc. Mais ils ont besoin d'être encouragés, n'est-ce pas ? Et quand dans une église, on voit que quelqu'un s'y met, il faut l'encourager. Et alors adapter ceci. Hein, je pense à un de nos stagiaires qui était un marin au long cours. Il avait bourlingué sur toutes les mers du monde. Il est maintenant serviteur à plein temps en Bretagne. Nous l'avons vu pendant un an, il a appris cette méthode, c'était une de nos règles pour nos stagiaires, on leur apprenait tout ça, n'est-ce pas ? Bon, alors il m'a dit un jour, Maurice, tu sais, ta méthode, je la prends, mais j'ai besoin de l'adapter. Je lui ai dit, mais vas-y, l'essentiel, c'est que tu te sentes à l'aise. Et il m'a dit, tu sais comment je vais l'adapter ? Puisque j'ai été marin, je vais utiliser le code de la marine. Et il a donc utilisé le code de la marine, notamment aussi dans son annotation biblique dont nous parlerons demain après-midi. Vous voyez ? Qu'il donne un ordre ou qu'il fait une promesse et qu'elle est chaude pour mon cœur, elle est notée. Vous voyez, il suffit de prendre, c'est tout simple, hein, les cartes bancaires et autres. Leurs enveloppes servent au moins à quelque chose, et vous découpez des petites fiches, et c'est encore plus utile que la carte bancaire, parce que ça a une portée vers l'éternité. Par avion, bien sûr, le pare-bateau, ça alimente la prière. Il n'est pas de vie de prière riche qui ne soit irriguée par le flot des Écritures. Tout se tient dans ce domaine. Ensuite, par avion, ce que j'ai appelé l'approche jet, la lecture cursive dans le cours du texte, ce n'est plus la mer, mais c'est le ruisseau ou le torrent ou la rivière qui va vers la mer, donc beaucoup plus rapidement. C'est ce qui me permet de raconter la Bible en 5 minutes. Vous allez rentrer chez vous aujourd'hui, vous allez chercher dans votre maison une armoire avec un grand miroir, et vous allez vous mettre devant le miroir pour dire à la personne que vous regardez en face de vous dans le miroir, « Mon ami, raconte-moi la Bible en 5 minutes. » Et puis vous allez essayer de raconter à votre ami, là dans le miroir, la Bible en 5 minutes. C'est important, c'est un test, je suis très sérieux. Est-ce que nous pouvons, dans un laps de temps extrêmement court, résumer le message de la Bible? Si nous ne pouvons pas le faire, c'est que nous n'avons pas une vision globale des Écritures. La Bible doit se lire comme un roman. Elle n'est pas un roman, mais elle doit se lire comme un roman. Il faut parcourir le territoire des Écritures en permanence, comme les essuie-glaces hein, sur votre pare-brise, en permanence, de l'alpha à l'oméga des Écritures. J'ai eu un long entretien, très, très chaud même, parfois très vif, hier après-midi, avec quelqu'un qui, je ne sais pas s'il cherche ou pas, mais en tout cas qui était bourré de questions. Et je me suis rendu compte qu'en fait, son grand problème, notamment, c'était qu'il bâtissait toutes sortes d'échafaudages à partir d'une fausse vision des Écritures, parce qu'il n'avait jamais lu la Bible d'un bout à l'autre. Et c'est fondamental. D'un bout à l'autre, cela fait maintenant à peu près une trentaine d'années que je lis systématiquement la Bible d'un bout à l'autre, continuellement. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de lire de cette manière pour pouvoir raconter la Bible. Il importe d'avoir une stratégie, par exemple un plan de lecture annuel. Alors là, vous pouvez déjà simplement, brièvement regarder votre plan de lecture annuel. Vous avez remarqué, vous avez certainement parmi les documents reçus, en recto verso, cette petite feuille qui a été faite par un de nos stagiaires quand nous étions responsables d'église en Bretagne. C'était une de ses activités qu'il a bien réalisée. C'est bon d'avoir cela dans sa Bible. J'en ai un dans ma Bible qui est dans ma lecture cursive en ce moment, ce matin. Il se promène par là. Alors, il existe divers formats. Vous en avez un autre. Ça se fait assez facilement. Je suis sûr que les responsables de l'Église pourront vous procurer d'autres choses si vous en avez besoin. Mais voilà une possibilité, donc. Il vous suffit de cocher, c'est écrit, les cases au fur et à mesure que vous avancez dans votre lecture. Je vous signale au passage que vous avez un autre document qui concernait le cœur à cœur. C'est aussi pour vous aider, cela vous permet de savoir quelles sont les questions que vous pouvez vous poser dans votre murmure des Écritures, jour après jour. Vous avez certainement ceci en recto et verso. Vous pouvez le photocopier en un plus grand nombre d'exemplaires, de manière à en avoir un pour chaque jour de votre année. Et vous le remplissez au fil de vos rencontres personnelles quotidiennes avec le Seigneur. Il y a diverses manières de faire cette approche JET. Il est bon, lorsqu'on se convertit à Jésus-Christ, de commencer par lire le Nouveau Testament complètement d'un bout à l'autre. Et de le lire plusieurs fois. Mais de ne pas négliger pour autant l'Ancien Testament. Il est bon d'entrer le plus vite possible dans une lecture également de l'Ancien Testament. On peut progresser en commençant à la Genèse. Je ne sais pas si je l'ai indiqué dans le texte. Non, je ne l'ai pas indiqué en détail. Vous lisez par exemple, vous savez qu'en lisant 3,5 chapitres par jour de la Bible, vous lisez sans aucun problème la Bible en une année. Pourquoi est-il important de lire la Bible en une année plutôt que 2 ou 3? Eh bien, faites l'expérience avec un roman lorsque vous lisez un roman. Plus vous mettez de temps à lire le roman, plus vous perdez le fil conducteur. Et il arrive que ce soit très décourageant de lire un livre sur trop de temps, parce que quand vous arrivez au bout, vous ne savez plus comment c'était au commencement. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Si vous prenez trop de temps à lire la Bible systématiquement, vous allez perdre très rapidement ou ne pas pouvoir entrevoir les fils conducteurs des Écritures et l'unité de la parole de Dieu. Et on a remarqué qu'en fait, en la lisant régulièrement sur une année, au bout de 2, 3, 4 ans, on commençait à avoir une vision de plus en plus harmonieuse et équilibrée de l'ensemble des Écritures.
Alors il faut varier d'année en année. La première année, vous allez lire Genèse 1, par exemple, le psaume 1er, et peut-être Ésaïe chapitre 1er, et puis vous irez faire un saut dans le Nouveau Testament pour lire Matthieu 1. Et bien sûr, vous cochez au fur et à mesure pour pouvoir toujours vous y retrouver sur votre feuille annuelle. Le deuxième jour, vous allez lire Genèse 2, Exode 2, Psaume 2, Ésaïe 2, et dans le Nouveau Testament, Matthieu 2. Et vous avancez ainsi progressivement. Vous réaliserez que vous lirez le Nouveau Testament au moins deux fois pendant que vous lisez l'Ancien Testament une fois, par exemple. Ce qui est une bonne chose. Mais je vous encourage, une autre année, vous procéderez autrement. Vous allez peut-être avoir une fois envie de lire la Bible vraiment de A à Z, en commençant à la Genèse et en finissant à l'Apocalypse. C'est à vous de voir. Mais ayez une stratégie personnelle et marquez-la bien au fur et à mesure de votre avance pour être toujours sûr de vous retrouver. Les moments, eh bien, tous les moments sont bons. C'est le métro pour la région parisienne. Au lieu de lire un tas d'autres choses ou de somnoler, pourquoi ne pas entreprendre sa lecture cursive pendant toutes ces longues heures dans une année où on est dans les transports en commun? C'est peut-être la pause café, la récré, je ne sais pas. Le Seigneur nous rend ingénieux hein, quand on a envie. Ou bien un petit morceau le matin, un petit morceau à midi, un petit morceau le soir, en réservant pour le soir ce qui fait le plus de bien avant d'aller faire dodo. Il est évident que si vous lisez le Lévitique avant de vous coucher, et ce qui traite des sacrifices, vous pouvez avoir une nuit un petit peu sanguinolente parfois. Hein? Alors, choisissez un bon psaume pour vous endormir, ou un beau texte du Nouveau Testament, mais je vous y encourage vivement, c'est meilleur que la dernière émission de télé, certainement. Les buts d'une telle approche, il faut que j'en dise un mot, une bonne diététique spirituelle. On parle beaucoup de la diététique. Il faut la Bible tout entière pour faire un chrétien tout entier. Oh, j'aurais aimé développer tout ça. La découverte de l'unité fantastique des Écritures, la découverte des révélations progressives, ce qui permet d'éviter de faire des bêtises quand on parle doctrine, la découverte de la relation des livres entre eux, la spécificité, c'est-à-dire le message particulier de chacun des livres de la Bible, la découverte de la pédagogie divine pour former l'homme et le développement d'un christianisme équilibré. Et notez, je l'ai mis exprès, si nous sortons un texte de son contexte, nous obtenons un prétexte. Alors là, la lecture de l'ensemble des Écritures est très très importante. Principal écueil à éviter, nous avons encore 5 minutes, se laisser démobiliser par les livres et passages difficiles. Ce que je dis habituellement, c'est que quand on fait de la lecture cursive, c'est comme quand on mange du poisson. Si vous mangez du poisson, le poisson est bon, il y a parfois des arêtes. Vous ne jetez pas le poisson à la première arête. Hier, j'ai mangé du poisson, je crois que c'est la personne qui m'a accueilli aurait été très vexée si je lui avais redonné son poisson. Dit, écoutez, il y a des arêtes, j'en veux plus. Non, on met les arêtes sur le côté, puis on continue à manger. Il y a des arêtes dans les Écritures. Alors, on met les arêtes sur le côté et on continue sa lecture cursive. Si on a des questions, on peut les mettre dans un carnet. La deuxième année, vous allez comprendre certains livres beaucoup mieux que la première. Et puis, la Bible s'interprète par la Bible. Un passage difficile va s'illuminer par un passage beaucoup plus clair. Et peu à peu, vous allez faire des liens entre les différents livres et passages des Écritures. Et puis il y a l'étude en sous-marin, l'étude en profondeur d'une doctrine, d'un livre, d'une biographie, avec une bonne Bible d'études, plusieurs versions, un dictionnaire biblique, une concordance, un bon commentaire, un cahier, des crayons de couleur, des fiches. Et on en vient donc rapidement, très rapidement, aux méthodes. Il y a tout d'abord la première méthode, je l'appelle le langage du ciel. J'espère que tout le monde est au clair avec la langue du ciel. Si vous ne la connaissiez pas, c'est le moment ou jamais. Hein? C'est la manière de retenir les livres du Nouveau Testament en dehors des évangiles et des actes. Hein? Vous avez 3 fois 3, 2 fois 4, 1 fois 5, rococo, galéfi, Co-testes, titi-tifi, eja, pipi, je, ju, je. Ça va? C'est pas du créole, hein? Ah, mais vous avez compris, Romain, Corinthien de Corinthien, et tout le Nouveau Testament, il passe. Pourquoi ici je? Parce que l'Apocalypse est de Jean également. Alors je vous encourage à le noter, on le laissera là, peut-être pas tout à l'heure pour ne pas distraire pendant le culte, mais notez ceci, apprenez-le par cœur, et puis ensuite vous apprenez à l'utiliser quand vous fouillez dans votre Bible, et surtout pour former des nouveaux amis qui découvrent Jésus-Christ. C'est une solution de facilité pour chacun d'entre nous. Ensuite, soulignage, encadrement, couleur. Alors c'est là qu'intervient ce document. Ça restera là, donc même si vous ne le notez pas maintenant, ce n'est pas grave, mais n'oubliez pas de le noter. Prenez ce document, s'il vous plaît, pour que nous puissions terminer cette partie importante. Vous avez donc ici une méthode tout à fait personnelle, sauf la question des couleurs, que j'ai reprise d'ailleurs, mais adaptée à ma personnalité. 14 couleurs. Elles sont indiquées, hein, puisque c'est de la photocopie noir et blanc, bleu clair, rouge, stylo, etc., sur les grands sujets fondamentaux qui parcourent les Écritures. Ensuite, vous avez des alphabets, vous avez plusieurs alphabets. Vous avez un alphabet rouge qui concerne la personne de Dieu et Jésus-Christ. Vous avez un alphabet bleu, normalement c'est indiqué, d'ailleurs j'ai dû mettre à quelque part que c'était en bleu au-dessus, oui, avec toutes sortes de grands sujets très importants, bien sûr, qui ne concernent pas directement la personne de Dieu ou de Jésus-Christ. De l'autre côté, vous avez 3 colonnes avec des lettres minuscules concernant d'autres sujets encore, qui généralement décompose les sujets les plus importants. Si vous voulez, l'idée avec cette méthode, c'est de partir de l'infiniment grand et d'aller vers l'infiniment petit. Les couleurs, ça vous permet de voir les grandes lignes doctrinales des Écritures. Les lettres majuscules vous permettent d'analyser à l'intérieur des grandes doctrines déjà des aspects importants, mais sous-jacents, si vous voulez. Et puis ensuite, vous affinez encore en utilisant les alphabets minuscules en vert pour des sujets généralement positifs, en noir pour des sujets qui ne le sont pas. Et puis, vous avez à côté toute une série d'idéogrammes, de symboles que vous pouvez adapter, modifier complètement et dont vous allez couvrir votre Bible. C'est quelque chose d'absolument passionnant. Je prends l'exemple du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit appartient au message de l'amour. L'amour est indiqué dans le texte. Voyez, vous avez le fruit de l'esprit en jaune, vous allez mettre en jaune, Galates 5, 22. Ensuite, vous allez décomposer. Dans le fruit de l'esprit, il y a tout un arc-en-ciel qui forme le caractère de Jésus-Christ. Et vous allez pouvoir, à l'aide de l'alphabet, notamment de l'alphabet minuscule, dans la marge, mentionner chacun des éléments de cet arc-en-ciel, en quelque sorte, du fruit de l'esprit. Ceci va vous obliger en permanence à interroger le texte des Écritures. Il faut continuellement interroger la parole de Dieu. C'est très important parce que nous sommes dans une civilisation qui va vite et nous lisons la Bible trop vite. Oh là là, il est l'heure que nous nous arrêtions. Vous avez de toute manière une quantité de conseils suffisamment précis dans le texte concernant les objectifs, repérage des grands thèmes, dominantes, plan des livres, les alphabets, ne pas vouloir tout utiliser en même temps, commencer par utiliser 2 ou 3 couleurs. Nous avons parlé du Saint-Esprit ou d'un autre thème, et pendant toute une année, vous allez souligner dans votre Bible tout ce qui a trait à tel aspect. Et puis la deuxième année, vous allez prendre d'autres couleurs, et ainsi de suite. Voilà, je vais m'arrêter là pour que nous puissions commencer notre réunion à l'heure. Rien ne vous empêche, si cela m'arrive de temps en temps de recevoir des coups de téléphone et du courrier à la suite de séminaires pendant lesquels on me pose des questions. Alors si dans un domaine vous éprouvez le besoin d'être davantage éclairé ou qu'il y a quelque chose qui vous gêne, N'hésitez pas soit à téléphoner, soit à m'envoyer un petit mot. Je me ferai un plaisir de continuer à aider ceux qui veulent aller loin avec le Seigneur. Bon courage, hein? Je vous encourage de tout mon cœur. C'est le meilleur que l'étude de la parole de Dieu. Voilà, on va peut-être prier quand même. Seigneur, nous te bénissons, nous sommes heureux parce que ce que nous avons vécu, même très courtement, est tellement bienfaisant. Seigneur, nous voulons être des passionnés de ta personne en étant des passionnés de ta parole. Merci pour l'efficacité de cette parole qui a déjà tant fait dans nos vies. Seigneur, je te demande ce matin de susciter parmi nous de ces passionnés et de faire se lever ici dans ces églises de la région parisienne une armée de jeunes qui seront passionnés de ta parole et qui accepteront de te servir et de communiquer plus loin ce merveilleux message de salut jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.